Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui?
Bonjour. En ce début de session, il m'a été demandé de réfléchir avec vous au mystère de l'être humain que nous sommes. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Je vous propose de le faire en deux grandes parties. Dans un premier temps, nous aurons une approche plus philosophique, c'est-à-dire une approche qui ne fait pas appel aux données de la foi. Et ensuite, dans une deuxième grande partie, nous aurons une approche plus théologique et biblique de ce thème. Donc tout d'abord, une approche plus philosophique. Que de conceptions de l'être humain nous rencontrons aujourd'hui, qu'elles soient implicites ou qu'elles soient explicites. Il y en a tellement qu'on peut sembler être parfois un peu perdu. De très nombreuses voix se font entendre. En voici quelques-unes, de façon non exhaustive évidemment. Il y en a tellement plus que ce que je vais ici très brièvement évoquer. Je les ai classées en deux grandes catégories. Tout d'abord, les conceptions plus spiritualistes de l'être humain. On entendra parfois, par exemple, l'homme, ce qui définit l'homme avant tout et par-dessus tout, c'est sa raison. En oubliant qu'il y a aussi le corps, les passions, toute une autre série de choses. L'homme, c'est la raison, le cogito. Ou bien, on entendra également, finalement, l'être humain se caractérise par la capacité de s'affirmer, de manifester sa puissance, sa domination. L'être humain, c'est essentiellement quelqu'un qui veut et qui impose sa volonté aux autres. On a des philosophes très magnifiques, durs quand même, tels que Nietzsche ou Sartre, qui ont exploré cette voie. Finalement, ce qui caractérise l'homme, c'est son désir, et son désir autonome, diront-ils. Un désir qui se veut lui-même. Entre parenthèses, pour les philosophes d'entre vous, si on veut son propre désir, à force de vouloir son propre désir, on finit par vouloir le vide. On débouche sur une sorte de métaphysique de l'être comme néant, comme vide. Ou bien, de façon un peu plus prosaïque, l'homme se définit essentiellement comme production de lui-même, par lui-même. L'homme, c'est ce qu'il fait, c'est sa technique. Ce qui est vraiment, c'est moi en tant que je suis fabriqué, c'est moi en tant que projet. Ça, c'est pour les conceptions un peu plus spiritualistes, qui s'articulent plus ou moins bien avec des conceptions plus matérialistes de l'être humain. En voici quelques-unes, d'un matérialisme plus ou moins subtil, plus ou moins grossier. Je prends un exemple de la neuroanthropologie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Il faut taper sur Internet, vous verrez, il y a beaucoup de sites. L'être humain est totalement explicable à partir du fonctionnement de son cerveau, de ses neurones, de son architecture neuronale et de ses variations. Ainsi en serait-il aussi de nos conceptions religieuses, de notre conscience. Un certain Andrew Newberg, qui est neurophysiologiste à l'université de Pennsylvanie, et un collègue anthropologue, Eugène d'Aquilly, ont passé par exemple au scanner le cerveau de 8 moines bouddhistes en méditation. Sur les images obtenues, ils ont observé une diminution, je cite, du flux sanguin au niveau des lobes pariétaux supérieurs lors de la méditation. Ils en concluent, l'intérêt c'est leur conclusion. C'est sûr que quand nous prions, il y a une influence neuronale et que nos neurones font partie de nous-mêmes, évidemment. Je ne prie pas sans mes neurones, d'accord ? Donc, qui est une certaine agitation neuronale, une certaine variation, qui est quelque chose qui se passe dans mon cerveau quand je prie, c'est clair. Alors, ce qui est intéressant, c'est leur conclusion. Ils ont conclu que les croyances sont de purs produits de l'activité cérébrale. Et ils ont écrit ensemble un livre qui a été traduit en français, « Pourquoi Dieu ne disparaîtra pas ?» sous-titre